Bonjour.
Salam.
Bonjour.
Bonjour.
Le jardin parfumé.
Une émission proposée par l'association Najma pour faire découvrir la culture du monde arabo-berbère.
Voilà, et aujourd'hui, nous avons avec nous à cet effet Emmanuel qui va nous parler d'une autrice ou auteur qu'elle aime bien et que nous avons découvert avec elle, une belle découverte, Maïssa Bey. Voilà, comme à chaque fois, nous allons démarrer notre émission avec une découverte musicale. Peut-être que les gens connaissent déjà un petit peu, mais je serais étonné. Izia.
لا حاج ريقك شي ينعاد
سهايا سوق الرقيب خيار من طلعة جمار شعب تبول نار ونعواق ذهبية صدرك مثل الرخام فيه الكنين توام من تفاح السقام السويقية قلبي سافر معلي خلات ذلكية
Voilà, donc vous venez d'écouter un petit bout d'une chanson qui dure 23 minutes, pas moins, qui s'appelle Haizia. Et donc c'était l'une des multiples interprétations par un chanteur algérien du désert, Khalifi Ahmed, sur les rythmes du tambour, le bendir, et sur les sons magiques de Nera, de Gazba. Voilà, et c'est un poème qui a été écrit au 19e siècle par un poète de l'époque qui s'appelle Guitouni. Et ce poème a inspiré donc notre autrice d'aujourd'hui, c'est-à-dire Madame Maïsabé, qui a écrit un livre inspiré de l'histoire réelle de ce poète amoureux d'une jeune femme de son village qui s'appelait Haizia. Donc, nous allons parler de Maïsabé en tant qu'autrice et Mina va nous dire un petit mot sur cette dame pas très 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 connue du public.
Pas très 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 connue et une belle découverte en ce qui me concerne. Donc Maïsabé, c'est une femme de lettres algérienne, comme tu l'évoquais un instant, qui est née à Ksar El Bukhari, un petit village au sud d'Alger, en 1950. Et son père, instituteur, était militant du FLN et il est mort sous la torture alors qu'elle était âgée seulement de 6 ans. Il lui a néanmoins transmis l'amour de la langue française. Elle est passionnée de lecture et fait de brillantes études universitaires de lettres à Alger et devient professeure de français dans un lycée à Sidi Bel Abbès dans l'ouest algérien. De son véritable nom, Samia Ben Amer, elle emprunte ce pseudonyme afin de pouvoir écrire et partager plus librement des récits souvent biographiques ou autobiographiques. À propos du choix de ce nom d'emprunt, elle explique « C'est ma mère qui a pensé à ce prénom qu'elle avait déjà voulu me donner à la naissance. Et l'une de nos grands-mères maternelles portait le nom de Bé. C'est donc par des femmes que j'ai trouvé ma nouvelle identité, ce qui me permet aujourd'hui de dire et de raconter, de donner à voir sans être immédiatement reconnue. » Exploratrice littéraire, aimant la variété, son œuvre se compose de romans, de nouvelles, d'essais mais également de poèmes et de pièces de théâtre. Elle publie son premier roman, Au commencement était la mer, en 1996, puis Nouvelles d'Algérie, ouvrage salué par le Grand Prix de la Nouvelle de la Société des gens de lettres. Elle reçoit d'autres distinctions, telles que le prix Marguerite Audoux. C'est un prix qui récompense les auteurs de langue française dont le style donc, se rapproche de celui de la romancière. Et ce prix lui est décerné pour son livre « Cette fille-là » qui est paru en 2001. Elle a reçu en 2005 le Grand Prix des libraires algériens pour l'ensemble de son œuvre et le Grand Prix du roman francophone « Silla » en 2008. C'est en langue française que Maïsabé écrit et déclare à propos de cette langue « Il est bien plus réaliste de la considérer comme un acquis, un bien précieux et peut-être même un butin de guerre ainsi que la définissait Katab Yassin. » À travers ses écrits, elle tente de briser les secrets et les tabous de l'histoire et de la société algérienne. Elle porte en particulier la voix des femmes face à l'injustice, l'oppression et au silence qui les entoure. D'ailleurs, elle inspire des auteurs militantes telles que Jocelyne Carmichael, poétesse, écrivaine, actrice, metteuse en scène et militante française des droits des femmes, qui adapte en 2003 son roman « Cette fille-là » au théâtre. Elle est fondatrice et présidente de l'association culturelle Parole et Écriture, association de femmes algériennes qui œuvre à ouvrir des espaces d'échange et d'expression culturelle, avec notamment la création d'une bibliothèque en 2005, des animations culturelles dédiées aux enfants, des rencontres avec des auteurs, des lectures de contes et des ateliers d'écriture. Elle est également cofondatrice des éditions Chèvrefeuille étoilée, chèvrefeuille étoilée, où elle dirige la collection Les Chants de Nidaba, ainsi que de la revue Étoile d'encre, dans laquelle elle publie de nombreux textes. Maïssa Bey écrit, dit-elle, mue par le désir de ne plus être le témoin passif d'une histoire dont le déroulement violent interpelle toutes les consciences. Et avec nous, donc pour parler de Maïssa Bey aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Emmanuel Petitjean. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs un petit peu ce qui vous a attiré? Comment vous êtes arrivé à cet auteur, Maïssa Bey? Comment vous l'avez rencontré?
Alors, comment je l'ai rencontrée, elle, honnêtement, je ne me rappelle plus. Ça fait assez longtemps que je la connais. Pourquoi j'ai envie d'en parler, de partager ces beaux écrits, tout simplement parce que ça fait de nombreuses années que les hasards de la vie, des rencontres, des amitiés m'ont fait voyager beaucoup sur le continent africain, que ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Donc, je me suis mis à lire littérature, essais, je voulais comprendre voilà, la politique, l'économie, l'histoire, toujours. Et je me suis rendu compte que l'histoire d'une partie du continent africain et l'histoire de France où j'ai vécu et grandi, c'est la même. Voilà, on l'apprend pas beaucoup à l'école, mais c'est comme ça. Et puis du coup, en 2019, j'ai monté à Clermont-Ferrand une bibliothèque que j'ai appelée Bibliothèque des Afriques, qui regroupait toutes sortes de livres concernant le continent africain. Et voilà, et beaucoup d'animation aussi autour de ces livres. Ça n'a pas pu durer longtemps à cause du Covid, on connaît tous l'histoire. Mmh. Et puis parce que, pour d'autres raisons, j'ai dû venir habiter à Albi. Voilà, maintenant je suis albigeoise.
Et bienvenue.
Et voilà. Donc quand j'ai rencontré Asdine, qui m'a dit « Est-ce que tu veux parler ?» Voilà, j'ai pensé à Maïssa Bey parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, dont j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup l'écriture et les thèmes.
Eh bien, tu nous as transmis le virus. Et est-ce que, donc tu nous as mis l'eau à la bouche en parlant de cette dame, de cette grande dame, est-ce que tu ne voudrais pas nous lire un petit passage d'un extrait de quelque chose que tu aimes bien, que tu affectionnes particulièrement?
Peut-être avant, j'avais envie de présenter les grandes lignes.
Oui.
Comme ça, après, on pourra parler du livre, de l'extrait. Alors, Maïssa Bey, voilà pourquoi j'adore Maïssa Bey. Maïssa Bey, c'est un style, c'est une écriture qui est précise, ciselée. Chaque mot a sa place. Et en quelques mots, nous sommes tout de suite dans une ambiance, dans la sensation intérieure des personnages. Et Maïssa Bey nous invite dans un monde qui est à la fois très concret, réaliste, quotidien. On a les gestes de la vie, précis, détails, et en même temps très poétique. Elle nous transmet la beauté du monde et surtout, c'est une écrivaine de la sensation. Il y a la lumière, il y a les objets, la caresse du vent sur la peau, l'odeur du café. Enfin, il y a tout cet environnement très physique, très, très corporel qui est présent tout le temps et qui est vraiment en lien avec ce que vivent les personnages. Et de cet univers extrêmement quotidien et réaliste, parfois on part vers le rêve. Là, le rêve des personnages ou des espèces d'états comme ça, un peu bizarres, on ne sait pas trop où on est, mais c'est très riche.
J'utilise beaucoup le rêve dans cette écriture comme échappatoire.
Alors, Maïssa Bey nous raconte des histoires et au centre, ce sont les femmes. Voilà, la plupart de ces personnages sont des personnages féminins. Elle nous fait voir le monde par le regard des femmes, par les sensations, les émotions, les désirs, les corps des femmes, par les pensées, donc les rêves, et les réflexions. Et c'est vraiment une exploration en profondeur de l'intimité des femmes. Il s'agit bien sûr des femmes algériennes, puisque l'œuvre de Maïssa Bey se passe toujours en Algérie. Tous ces 9 romans et toutes les nouvelles, ça se passe toujours en Algérie. Mais pour moi, c'est complètement universel. C'est-à-dire que toutes les femmes du monde peuvent se retrouver dans les personnages de Maïssa B, en particulier les femmes qui vivent dans des sociétés patriarcales. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, c'est-à-dire beaucoup dans le monde, voilà. On y est, on y est. Bon, il y a quand même une immense diversité de personnages. Hein. Dans tous ces romans, il y a un personnage principal, donc féminin, mais il y a toujours l'occasion d'une galerie de portraits d'autres femmes. Voilà. Et ces femmes ne sont pas hors sol. Elles sont dans un environnement familial, social, politique. Et ça, c'est une chose qui me plaît beaucoup aussi, c'est que on est dans un univers complet. C'est-à-dire qu'il y a... On est dans l'intimité des personnages, les personnages ont une épaisseur, une psychologie, et en même temps, il y a une analyse très, très fine et très poussée de l'environnement social, des classes sociales, de la famille, etc., et politique, puisque Maïssa B s'intéresse beaucoup à l'histoire, on en reparlera, je pense. Et voilà, et Maïssa B interroge donc beaucoup cette société algérienne qui enferme les femmes, et les hommes aussi, parce que ça marche ensemble, quoi qu'on dise. Et voilà, une société où les choses sont, les rôles sont assez figés, et où donc c'est une souffrance pour pas mal de gens. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Ah oui, une chose très importante pour moi, Maïssa B nous parle donc de choses difficiles, de souffrances, de blessures, enfin de choses... Voilà, lourde, et ce que j'aime bien, c'est qu'à la fois elle nous touche, on vibre avec les personnages, et en même temps son écriture permet une distance avec toute cette souffrance, on n'est pas dans le pathos. Mmh. Il y a une distance qui permet la réflexion, qui permet de voir aussi la beauté à travers toutes ces vies qu'elle raconte et qu'elle décrit. Et voilà, c'est une écriture que j'appellerais à la fois, enfin que je qualifierais à la fois de légère et de solide. Mmh. C'est un peu... Mmh. Voilà, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, quoi. Il y a des vrais êtres humains. Personne n'est tout bon ou tout mauvais. Oui. Tout le monde a ses contradictions et chacun fait comme il peut. Voilà. Alors, je vais vous lire le commencement du commencement, c'est-à-dire le premier chapitre du premier livre de Maïssa B qui s'appelle « Au commencement était la mer ». C'est son premier roman, voilà. C'est le commencement du commencement. Derrière les volets fermés, l'aube a envahi la plage. Des lueurs timides se glissent dans la chambre sur les motifs délavés des carreaux et strient de raies plus pâles le visage de Feriel profondément endormi. Nadia s'attarde un moment à la regarder. Dans son sommeil, Feriel a repoussé le drap qui la recouvrait et ses jambes nues, dorées sur le tissu blanc, s'échappent de sa chemise de nuit relevée. Les bras écartés, le visage auréolé de boucles rebelles, elle repose dans un total abandon. Une tiédeur parfumée émane de son corps, de son souffle léger, l'odeur désarmante de l'enfance. Nadia se lève, elle enfile ses vêtements, elle sort de la chambre. Doucement, très doucement, elle tire la porte derrière elle. Sur la pointe des pieds, elle traverse le patio, immobile dans le clair-obscur. Instant volé de ses rencontres secrètes avec la mer. Tout de suite, dans l'air qu'elle respire, le bonheur. Un bonheur tout rose, avec de petits nuages blancs qui courent là-bas au ras des collines sombres. Debout sur la première marche, elle se laisse d'abord pénétrer par le flux des sensations qui affleurent sur sa peau en un lent frissonnement. Il suffit de descendre pour retrouver la plage. Le sable sous ses pieds nus se dérobe en un picotement subtil, tandis qu'elle avance sur le rivage désert aux couleurs incertaines. Devant elle, la mer encore embrumée retrouve presque timidement ses marques, se dégage difficilement des bras de la nuit. Nadia avance. Elle salue le jour naissant comme au commencement du monde. Elle est seule et plus libre qu'elle ne l'a jamais été. Et elle court maintenant, les bras étendus, rêve d'oiseaux qui fendraient l'espace sans que rien ni personne ne puisse la retenir. ses cheveux dénoués volent autour d'elle, viennent gifler son visage offert. Je saute un petit passage pour pas que ce soit trop long. Donc, le passage que je saute, elle revient vers la maison. La porte tirée violemment de l'intérieur s'ouvre devant elle. Debout, dans la lumière blême, Jamel, son frère. Il l'attendait. « D'où viens-tu ?» Son visage n'est qu'une tache plus pâle dans l'ombre, mais elle voit nettement ses mâchoires si serrées que même sa voix en est contractée, presque inaudible. Stupide, elle le regarde, sans répondre. « Comment a-t-il pu ?»« D'où viens-tu » répète-t-il. « Je suis descendue, là, juste en bas, là, sur la plage, » balbutie-t-elle dans le même chuchotement. Elle tremble, surprise, en flagrant délit de liberté. Elle lit dans ses yeux tout ce qu'il ne dit pas, ce qu'il n'a pas besoin de dire. On ne se promène pas impunément seul sur une plage déserte de si bonne heure. Oui, elle le sait. C'est d'ailleurs cela qui aiguise son plaisir, le sentiment de braver un de ces nombreux interdits qui brident sa vie. Il l'écarte d'un geste brusque, pousse la porte, tourne la clé qu'il enlève. Puis il se détourne, encore frémissant d'une colère qu'il n'a pas su exprimer. Comme toujours. Debout dans l'entrée de sa chambre, elle le regarde refermer la porte sur ses silences et ses colères. Elle s'assoit dans un coin du patio et se recroqueville dans l'attente du jour. Pleine de tristesse et de lassitude, elle ferme les yeux. Au nom de quelles lois absurdes, incompréhensibles, doit-elle toujours renoncer à dire, à faire, avoir toujours à l'esprit ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, obéir à ceux qui veulent régir sa vie, son frère, sa mère et tous les autres, vivre sous les regards qui jugent, qui jaugent, qui agressent, qui condamnent, des blessures incessantes qui lui donnent parfois envie de se battre, mais la laissent surtout meurtrie et vulnérable. Peu à peu, autour d'elle, le silence se peuple de bruissements imperceptibles. À travers le maigre feuillage du bougainvillé, accroché vaillamment à l'un des murs du patio, une clarté plus franche s'installe, inéluctable victoire de l'aube sur les ténèbres. Dans quelques instants, sa mère se lèvera, ouvrira la porte de sa chambre et s'étonnera de la trouver si tôt réveillée. Elle lui posera des questions. Tout ce qui déroge aux habitudes devient vite suspect ici. Tout ce qui déroge aux habitudes devient vite suspect ici. Voilà, je vais m'arrêter là. En fait, l'essentiel est dit. J'ai envie de dire presque qu'on n'aurait pas de commentaires à faire parce que Maïssa B, dans ce premier chapitre de son premier roman, on a déjà une grande, grande partie de tout ce qu'elle dit, de tout ce qu'elle exprime, de la manière dont elle le dit, avec ce style que je trouve absolument magnifique.
On a tous les ingrédients,
effectivement. On a l'essentiel des ingrédients.
Oui, voilà. Et puis on a la sensation d'être avec elle sur la plage et on sent le sable sous les pieds et la mer iodée. Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi, c'est ce moment où le frère se dresse devant elle et où elle dit, elle tremble, surprise, en flagrant délit de liberté.
Ça, c'est vraiment une magnifique formule, oui.
Merci pour ce choix et cette lecture, Emmanuel. Vous êtes toujours sur Radio Albigès, à l'écoute de votre émission préférée, Le Jardin Parfumé. Voilà, donc là, c'est le moment de Maktoub. Maktoub, souvenez-vous, c'est ce petit moment où je vous parle d'un mot français qui a ses origines dans la langue arabe et je m'inspire toujours du fameux dictionnaire de M. Salah Gemrich. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Moukher. Moukher qui viendrait de l'arabe Mahlouka, nom féminin, argot d'Oran, Algérie. Oran et l'Oranais étant une ville imprégnée de l'idiome ibérique. Il y avait beaucoup d'Espagnols pendant l'occupation. Par influence de l'espagnol, Mujer ou Mujeruca, bonne femme. Voilà. Sauf qu'en arabe, c'est déjà une expression vieille, comme la société bédouine, proche phonétiquement de Moukherouka, dont je parlais tout à l'heure, et sans laquelle l'homme arabe traditionnel ne saurait nommer son épouse Makhlouqa. Makhlouqa. Littéralement créature. Ce qui, du reste, n'est pas loin de l'argot français du 19e siècle, pour la grande dame qui se voit enlever ses adorateurs par une grisette. Tenez-vous bien, cette grisette est une créature, nous dit M. Huard. Le sabir algérien en a fait Moukera ou Mouchera. Dictionnaire de la langue française à l'appui, ou Petite Mauresque, Marseille, 1830. Donc TLF, souvenez-vous, c'est le trésor de, les trésors de la langue française. La jota espagnole correspondant assez bien au ja arabe, comme dans Makhlouqa. TLF, on conclut que la prononciation K est donc le fait d'européen non espagnol. Les trois formes les plus fréquentes en littérature, Mouker, chez Morand, 1930, et Céline, 1936. Moucher, chez Aragon, les Beaux Quartiers, 1936 aussi. Et Mouker, chez Alphonse Daudet, La Fée d'Or, en 1897. Et chez Queneau aussi, plus récemment, en 1944, tout est relatif. Chez Céline, synonyme de femme maghrébine. Eh bien, vous êtes tous assis et toutes assises, la Fatma. Elle me fait signe de venir, de monter dans son gourbi. Elle me prend la main, la mouker. Elle me la retourne. Elle me regarde dans les pommes, de tout près, avec la lampe. Elle va me faire les lignes de la main. Et là, c'est le moment donc de Jalia, c'est Hanan qui a concocté des petites questions à notre invité Emmanuel.
Alors Emmanuel, vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure les thèmes de Maïssa Bey, de l'écriture de Maïssa Bey. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ?
Alors, ben, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, il y a le premier thème vraiment très important, c'est le... Je dirais le couple enfermement-liberté. Donc, dans l'extrait, on l'a quoi ? Je veux dire, le bonheur de la liberté, le bonheur infini, le plaisir d'aller au bord de la mer. La mer étant là, ici, à la fois le lieu et le symbole de cette liberté. Et la mer, c'est très important pour Maïssa Bey. Souvent, ça revient justement, là encore, comme symbole de liberté.
Comme symbole de liberté. Mmh.
Et puis, bah voilà, en opposition, l'enfermement hein, par la famille, la société. Et Maïssa Bey nous parle constamment de femmes qui se cherchent, qui cherchent leur chemin vers la liberté. Et elle nous montre toute la diversité que peuvent prendre ces chemins, et c'est ça qui est intéressant. Chacune ses recettes, chacune ses faiblesses, chacune ses forces, et c'est ça qui est beau, quoi. Voilà. Et alors l'enfermement c'est dans quoi ? Bah, c'est dans un certain nombre de normes sociales, hein. Toutes les sociétés ont leurs normes, plus ou moins envahissantes dans la vie des individus. Et Maïssa Bey décrit très bien la distorsion qu'il peut y avoir entre ces normes, ces injonctions sociales qui sont faites aux femmes et ce qu'elles ressentent, ce qui les appelle, la liberté, la curiosité, la découverte d'un ailleurs, la possibilité de choisir. Et c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, on se sent hors norme. C'est-à-dire on se sent pas adapté à la société, incomprise et en généralement très solitaire. Et Maïssa Bey s'intéresse beaucoup à ces femmes, principalement, qui se sentent hors norme, qui se sentent ailleurs. Donc si on parle par exemple du livre « Cette fille-là », voilà, c'est un roman qui se passe dans un lieu qui accueille justement tout un tas de gens qu'on considère hors normes. Des personnes âgées, des malades mentaux, des femmes répudiées. Enfin, il y a toute une variété humaine là qui est absolument prodigieuse. Mais on trouve ça dans beaucoup d'autres romans aussi, quoi.
Plusieurs voix.
Plusieurs voix, toujours plusieurs voix, oui, oui, oui. Voilà, et ça peut aller jusqu'à voilà le hors norme, c'est aussi ça peut aller jusqu'à la quête d'identité. Il y a plusieurs personnages dans les romans de Maïssa Bey qui sont en quête d'identité parce que des enfants abandonnés, des enfants trouvés, des enfants orphelins, qui suis-je, vers où je vais, ou des enfants adoptés, mais qui n'ont pas le droit de porter le nom de la famille qu'ils ont adopté, donc qui n'ont pas de nom. Enfin, voilà, c'est cet univers-là, quoi. Voilà, c'est déjà deux grands thèmes.
Alors, Maïssa B nous met devant le choix de la liberté contre une société violente. Quel est le prix de cette liberté ?
Ah, ça peut être très très violent, très 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 cher.
Très cher payé.
Très cher payé. Bah, c'est là où chacune se débrouille comme elle peut, et voilà, ça peut aller jusqu'à la mort. La mort de soi ou la mort de l'autre, ça me paraît une bonne manière de vous parler, de vous lire un extrait d'un autre livre dont je veux vous parler. Alors, je ne veux pas vous parler de tous les livres, hein, il y a 9 romans, donc je vous ai parlé du premier. Et là, j'ai envie de vous parler un petit peu plus du dernier, qui s'appelle « Nulle autre voie », qui est sorti en 2018. Et au niveau du style, c'est un roman qui est extrêmement épuré. Là, on est vraiment dans une concision intense. Et pourquoi je veux en parler par rapport à ta question ? Tout simplement parce que c'est une femme qui a tué son mari. Et voilà. Mais je vais vous lire un extrait, et puis on en reparlera. Hein. Alors, la narratrice est... la narratrice, c'est la femme qui a tué l'homme. J'ai tué un homme. J'ai tué un homme qui... Mais peu importe qui il était ou ce qu'il a fait. C'était un homme... Je n'ai rien à dire de plus pour l'instant. J'aurais voulu ne plus avoir à en parler. Je croyais en avoir fini avec ça. J'ai purgé ma peine. Pour moi, dans ce mot « peine », il n'y a ni douleur ni chagrin, pas non plus de regret. Rien d'autre qu'un sentiment de paix, une plénitude qui m'envahit chaque matin quand j'ouvre les yeux. Mais il y a cette femme qui se dit écrivaine. Elle veut écrire l'histoire de la dénommée. La dénommée, c'est moi. Depuis le jour où deux policiers m'ont sorti de chez moi menottes au poignet pour me livrer à la justice, je ne suis désignée qu'en référence à mon acte. La coupable, l'accusé, l'auteur du crime, l'inculpé, la détenue, numéro d'écrou ou matricule F-277. Je passe sur les surnoms que l'on m'a donnés en prison. Par l'acte que j'ai commis, j'ai effacé mon identité et le prénom que mes parents ont choisi pour moi le jour de ma naissance. Elle, l'écrivaine, s'appelle Farida. Hasard ou signe, c'est aussi le prénom de ma mère. Pour elle, je suis une femme hors norme. C'est pour cette raison qu'elle est venue me trouver. Elle ne précise pas cependant ce qu'elle entend par norme. Celle auxquelles on se réfère pour caractériser les femmes d'ici, mes concitoyennes ? Ou celles qui correspondent à une conception universellement admise de la féminité ? Ou les deux ? Moi, hors norme, je n'en demandais pas tant. Elle a sans doute été déçue par la banalité de mon apparence, la banalité de mon intérieur et l'indigence de mes propos. Elle n'en a rien montré. Voilà, donc c'est... Ce roman, c'est un crime et deux femmes. La femme qui a perpétré le crime et l'écrivaine qui veut lui faire raconter son histoire.
Son histoire.
Voilà. Donc, peut-être je peux expliquer un petit peu mieux l'argument du roman.
Oui.
Donc, la narratrice est une femme d'environ 50 ans. Elle a été condamnée à 15 ans de prison pour avoir tué son mari. Et l'histoire commence lorsqu'elle sort de prison et décide de s'installer dans une vie recluse, où la solitude est pour elle la liberté. Mais un jour, une jeune femme, l'écrivaine, vient la voir et lui demande de raconter son histoire, pour écrire un roman à partir de son histoire. C'est ce qu'elle dit, en tout cas. Voilà. Donc la narratrice, au début, refuse, elle veut être tranquille, voilà. Puis bon, l'autre insiste, voilà. Finalement, elle accepte. Et elle se retrouve régulièrement et... Du coup, la narratrice, peu à peu, va revenir sur elle-même, revenir sur son histoire, se retrouver dans la parole, se rouvrir au monde et surtout se mettre à écrire elle-même, à écrire sa propre histoire. D'abord, elle écrit à l'écrivaine, parce qu'elle n'arrive pas à lui dire par la parole.
Par la parole.
Et ensuite, elle écrit pour elle-même. Et voilà, c'est toujours Maïssa B.
Oui. L'écriture.
La libération par l'écriture.
La libération par l'écriture.
L'écriture transmission.
Quelle est la place des femmes libres dans l'Algérie que dépeint Maïssa Bey?
Pardon, excuse-moi.
Quelle est la place des femmes libres dans l'Algérie que dépeint Maïssa Bey?
Des femmes libres.
Des femmes libres.
Alors, les femmes libres, il y en a plein, mais elles ont différents moyens de trouver leur liberté. Il y en a en ignorant le regard social, qui est très fort, qui est très... Et il y en a par la ruse, tout simplement. Elles racontent à leur mari, à leur famille qu'elles font ceci ou cela, puis elles vont faire autre chose qui leur convient. Voilà, on trouve un peu toutes ces formes de liberté.
Mais est-ce que la société algérienne, elle donne une place aux femmes libres?
C'est pas facile.
C'est pas facile.
Je suis pas la mieux placée pour en parler. Moi, je connais un petit peu l'Algérie et les... Je ne suis pas algérienne. Je pense qu'une Algérienne répondrait mieux que moi à cette question. Mais à travers les romans de Maïssa Bey, on comprend bien que non, ce n'est pas facile. Et qu'il faut développer de l'imagination, de la ruse, des rapports de force pour arriver à trouver une certaine liberté.
D'accord. Donc Maïssa Bey dit qu'elle a acquis sa liberté en écrivant. Quel est ce rapport entre la liberté et l'écriture dans le travail de Maïssa Bey?
Alors, je pense que Maïssa Bey elle-même, oui, a trouvé une certaine liberté avec l'écriture. Et du coup, tous ces personnages, enfin, beaucoup de ces personnages, pas tous, non, mais une bonne partie de ces personnages, trouvent leur liberté de cette manière-là. D'abord dans la parole, comme on le voit là, mais aussi dans l'écriture. C'est-à-dire que, il y a une chose que j'ai trouvée intéressante dans une interview, c'est que Maïssa Bey explique que elle pense que l'oralité est le fait de la femme. Dans les sociétés traditionnelles, en Algérie ou ailleurs, hein, ce sont souvent les femmes qui comptent les histoires. Qui comptent les histoires aux enfants, qui comptent les histoires à tout le monde. Et en fait, c'est une parole du dedans. C'est-à-dire que c'est une parole du dedans dans le sens à l'intérieur de la maison. Et c'est la parole de l'autre, parce que la femme qui compte va reprendre la parole de quelqu'un d'autre, le conte qu'elle a entendu, qu'elle va elle-même redonner. Alors que l'écriture, qui le plus souvent est donnée par les hommes, c'est plus l'expression de soi. Et quand les femmes s'approprient l'écriture, elles s'approprient la capacité à redevenir sujet, à exprimer vraiment ce qu'elles sont, ce qu'on leur dit d'être, voilà. Et c'est pour ça que l'écriture, pour Maïssa Bey, c'est vraiment très très important.
C'est très important.
Et ces personnages, voilà, vont trouver beaucoup d'expressions. C'est aller ailleurs, l'écriture aussi. C'est non seulement s'exprimer, mais c'est aller ailleurs. C'est s'autoriser à aller visiter d'autres mondes.
D'autres mondes, ouais.
Voilà, les mondes de l'imagination. Voilà quoi.
Alors, parlez-nous du couple Vérité et Mensonge, dont elle consacre beaucoup de pages au couple Vérité et Mensonge. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, oui, la vérité, le mensonge, bon, c'est lié à ces fameuses normes sociales. C'est une autre manière un peu de dire tout ce qu'on vient de dire. Hein. C'est lié à ces normes sociales et comment s'en libérer. C'est-à-dire que il y a l'apparence, il y a le... c'est ce qui se passe d'ailleurs dans Nulle autre voie. Hein. La narratrice a toujours été dans le silence. Elle refuse de... même pour son procès, elle refuse de parler. Donc il y a tout un regard social. Bon, pour sa famille, c'est la honte. Donc plus personne ne lui parle, sauf un de ses frères qui la soutient. Le voisinage, l'entourage, bon, bah, c'est la désapprobation totale, évidemment. Et on la qualifie de monstre parce que c'est rassurant de se dire qu'elle est un monstre. Pour la justice, l'opinion publique, bon ben voilà, on se dit que son mari était méchant, il l'a battue, mais que elle, vraiment, c'est une mauvaise femme, et puis elle doit être un peu folle pour avoir tué son mari, quoi. Ça, c'est un thème qu'on retrouve d'ailleurs, la femme qui sort de l'ordinaire, elle est folle.
Elle est folle.
Si elle sort des règles, elle est folle. Voilà. Et du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, non, l'apparence, voilà. Donc. Pour cette femme, je réponds à votre question finalement à travers le roman, pour cette femme, la narratrice, il y a cette apparence, voilà. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'elle, elle ne veut pas parler. Pourquoi elle ne veut pas parler? Pourquoi elle ne veut pas s'expliquer? Elle a compris à un moment que toute sa vie, on lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse... Enfin, on lui a dit ce qu'elle avait à faire, qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle avait un seul choix, c'était mentir ou se taire. mentir pour peut-être trouver une liberté, ou se taire, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire, finalement. Voilà. Et donc là, elle choisit, en tuant son mari et en gardant le silence, d'arrêter de mentir, mais elle se tait, du coup. Et voilà. Donc la vérité derrière qu'elle veut dire, enfin qu'elle va découvrir sous l'impulsion de l'écrivaine, son passé sur lequel elle va revenir, c'est de nous faire comprendre que elle a tué son mari, pas seulement parce que c'était effectivement un monstre infâme qui la battait, qui était vraiment épouvantable, mais c'est un système social. C'est-à-dire que la narratrice vient d'une famille avec une mère qui n'était pas du tout aimante, qui était dévalorisante. On lui a fait comprendre qu'elle n'était pas belle, donc qu'elle serait difficile à marier. Enfin, vraiment, elle n'avait rien pour elle et elle se sentait complètement insignifiante. Donc on lui trouve un mari, on la case là, et puis voilà. Elle n'a jamais eu le choix. Et au bout d'un moment, voilà, il y a quelque chose qui est monté en elle. Elle aurait pu choisir la fuite, comme on en rencontre d'autres femmes dans ce même livre. Dans une situation intolérable, on choisit la fuite. Non, elle choisit délibérément de tuer son mari. Ce qui, pour elle, est une vraie faute, parce que ôter la vie à quelqu'un, c'est énorme. Et donc, du coup, elle accepte son jugement. Elle ne dit rien parce qu'elle accepte son jugement. Elle accepte ses années de prison, parce que quelque part, elle trouve que c'est normal, elle a ôté la vie à quelqu'un, mais aussi parce qu'elle ne veut plus mentir, donc elle se tait, et puis parce qu'elle veut payer pour ce qu'elle appelle son manque de courage, son manque de dignité, sa passivité. C'est-à-dire que quelque part, elle pense qu'elle aurait dû peut-être se révolter, protester contre le sort qu'on lui a fait, et qu'elle a manqué de courage. À un moment, elle dit, là je cite, au moment où j'ai frappé, je voulais mettre un point final à 30 ans d'échines courbées et de reniements. Cette partie de ma vie m'appartient. Elle reprend le pouvoir. Je ne sais pas si on a le temps. Je dirais bien un tout petit extrait.
Oui,
on a le temps.
Parce que ça dit beaucoup mieux que moi. Il faut comprendre. Il faut que je lui dise et qu'elle le comprenne, même si cela peut lui sembler paradoxal. Ce n'est pas l'enfermement qui m'a privée de liberté. Quand les portes de la prison se sont refermées sur moi, je me suis brusquement sentie, comment dire, délivrée. C'est le seul mot qui me vienne à l'esprit. Délivrée. C'était fini, il n'était plus. Malgré l'appréhension des jours à venir, il y avait en moi une sorte de jubilation, la jubilation des premières fois. Il était là, cet enfin libre que je n'osais plus espérer. J'avais infléchi le cours du destin. Mmh. Là, elle a choisi.
Elle a choisi.
Elle a choisi et elle paye pour ce qu'elle a choisi.
Elle paye. Elle a choisi le silence.
Elle a choisi le silence, mais grâce à l'écrivaine, elle va revenir à la vie.
Revenir à la vie.
Et après, j'en dirai pas plus parce que j'ai trop dévoilé le roman et vous aurez plus envie de le lire.
Alors, dans les livres de Maïsabé, il y a l'histoire de l'Algérie qui se profile. Quel est ce rapport avec l'histoire de l'Algérie dans les écritures de Maïsabé?
Alors, Maïsabé s'intéresse énormément à l'histoire de l'Algérie. Dans un de ses romans, d'ailleurs, elle dit... Il y a un personnage qui dit, en 1962, juste après l'indépendance, il y a un personnage qui dit « Notre histoire n'est pas encore écrite ». Moi, j'ai envie de dire, quelque part, Maïsabé apporte sa pierre à la construction de l'histoire de l'Algérie.
De l'histoire de l'Algérie.
Et donc, il y a trois romans qui sont vraiment des romans qu'on peut qualifier d'historiques, même s'il y a autre chose. Le premier, c'est « Entendez-vous dans nos montagnes ?» Bon, alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas trop en parler, mais je sais que c'est l'histoire de son père, qui était donc militant FLN et qui a été torturé et tué par l'armée française. Le second roman, c'est « Pierre sans papier, cendre », qui est donc un roman sur la colonisation française en Algérie. Donc, ça se passe de 1830 à 1962. C'est un roman au niveau du style qui est vraiment particulier, très, très poétique, très métaphorique et en même temps très, très clair. où vraiment elle raconte toutes les choses horribles qui se sont passées, les enfumages, tout ça, mais avec justement toute cette poésie et cette distance qui permet, voilà, de à la fois d'encaisser le coup, j'ai envie de dire, et de comprendre ce qui s'est passé, savoir surtout ce qui s'est passé, parce que moi, je partage avec Maïsabé l'idée qu'on ne peut comprendre le présent qu'en connaissant le passé et construire l'avenir. Donc voilà, Pierre sans papier cendre. Et le troisième roman vraiment très historique, c'est Bleu, Blanc, Vert, qui est sorti en 2006. Donc là, c'est l'histoire de la post-indépendance d'Algérie. Ça se passe de 1962 à 1992. Donc 1992, le moment où le FIS, le Front islamique du salut, est arrivé dans les urnes, enfin a été sorti dans les urnes. Donc sur ces 30 ans, c'est voilà, tout ce qui s'est passé à travers les voix de deux personnages. Pour une fois, il y a un homme qui est très présent, puisque c'est un roman à double voix, un homme et une femme, qui sont des époux et qui vivent ces 30 années-là ensemble. Ils se connaissent enfants, ils se marient, ils font une fille, voilà. Et on suit toute l'évolution de l'Algérie sur ces 30 ans. Et le titre pourrait être « Rêves et désillusions », mais bon, ça... voilà. Mais c'est une excellente analyse de ce qui s'est passé, vu de l'intérieur, vu d'en bas, même si... Voilà, le couple en question, c'est un couple à qui les choses réussissent, qui est plutôt aisé, ils ont fait des études, ils s'en sortent. C'est justement intéressant pour ça, c'est que même eux qui s'en sortent, eh ben c'est difficile. C'est difficile, ouais. Intellectuel, enfin philosophiquement, idéologiquement, de voir ce qui se passe, de comprendre, de comment réagir. Voilà.
D'accord, bon, je vous remercie pour ces éclairages sur l'écriture de Maïsabé. Qu'est-ce qu'on garde de Maïsabé?
Ah, alors là,
après tant
moi je vous invite à la découvrir, parce que je crois que tout le monde peut trouver quelque chose, à moins de vraiment pas aimer lire. Moi je garde la beauté et je dirais sa largeur de vue sur la vie et sur les humains, son humanité, et sa largeur de vue et la beauté de son écriture.
D'accord. Merci beaucoup Emmanuel.
Merci à vous.
Merci Monique.
Voilà, donc l'émission touche presque à sa fin. Merci beaucoup Emmanuel pour tous ces éclairages sur cette grande dame que nous avons découvert avec toi. Et il y a énormément de thèmes à débattre là-dessus. Il y a l'identité, la quête et la perte d'identité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le rêve, il y a des choses très, vraiment magnifiques. Moi, je suis régalé à la lire. Donc, si vous voulez écouter cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast. Est-ce que j'ai les jours sous les yeux? Oui. Le lundi à 14h, le mercredi à 8h et le samedi à 19h sur Radio Albigès, la meilleure des radios, dans le créneau Mondophonie. Je vois que...
Tout a été validé.
Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour finir encore une fois en musique, merci aussi à Marie-Amina et Hanan.
Merci à Zedine.
Cette émission a été consacrée, comme d'autres, à la femme. Hein. Il faut bien lui rendre hommage quand même. Et pour finir, nous avons choisi de vous faire écouter Sendou de monsieur Idir. Sendou, c'est la baratte. Et donc ce monsieur-là, Idir, quand il était enfant, disait qu'il voyait sa mère balancer la baratte pour faire du beurre. Et cette mère parlait à la baratte, c'était son interlocuteur privilégié. Donc voilà, il dit aussi que c'est l'histoire de toutes les femmes. Donc nous allons écouter Sendou de Idir. Yeah.
تهزني فالسن ذيك ما يسعد الغضنا ولما لزيت والسن حفي السوزني ذشنا زطغر من سندو تقسيت وثغرا منهما يغين ذي انتو يفرو هذي انتو يفرو صرف لي كبا بينهما فضلك ما بينهما السندوم السندوم ثاف كغدو ذي ذملا السندوم السندوم يا كنان الشرب طال يا كنان الشرب طال عندهم عندهم أي غير
Vous étiez à l'écoute de l'émission Le Jardin Parfumé sur Radio Albigès, une émission proposée par l'association Najma. Najma qui propose de faire connaître et de diffuser la culture, les cultures du monde arabo-berbéro-musulman. À très bientôt.
À bientôt.
Ma salama.